Ah, c'est vraiment un honneur pour moi, un sujet de joie de pouvoir vous apporter, vous transmettre ce que le Seigneur a mis sur mon cœur. Je veux d'abord vraiment honorer nos pasteurs, nos leaders, de me donner cette opportunité de pouvoir partager ce que le Seigneur a déposé sur mon cœur. Alors, nous sommes toujours dans la série Alerte. Et ce soir, nous allons parler de pression. Pourquoi la pression? Parce que face à la pression, nous devons rester en alerte. Nous devons dominer nos émotions pour ne pas laisser la situation nous mépriser, nous maîtriser et nous contrôler. Et le lien que je fais entre la série Alerte et le thème de ce soir, c'est le verset suivant, dans Proverbe 4, verset 23. Veille soigneusement sur ton cœur, car il est la source de tout ce qui fait ta vie. Veille sur ton cœur, car il est la source de tout ce qui fait ta vie. Je ne vous apprends rien ce soir si je vous dis que la pression fait partie de la vie. Nous faisons tous face à différentes sources de pression. La pression familiale, la pression parentale, la pression que j'ai eue ce matin en me disant « ça y est, c'est le jour est arrivé ». La pression sociale, la pression des réseaux sociaux, de l'avenir, la pression financière, la pression des blessures, des erreurs passées, la pression du péché, la pression de la culpabilité, la pression de la honte, la pression aussi de l'ennemi qui vient nous assaillir, la pression aussi dans notre marche chrétienne lorsqu'on cherche à marcher dans la sanctification, dans la pratique de la parole de Dieu. Là aussi, ça peut être une source de pression. Et la définition de la pression, c'est quoi? C'est une force qui presse, une force qui pousse. Elle est aussi décrite comme une influence exercée sur quelqu'un. Elle peut être externe, mais aussi interne. Nous avons l'exemple de la pression artérielle qui est indispensable au bon fonctionnement de notre cœur. Et Dieu est à l'origine de cette pression. Et on retrouve ce phénomène dans Jean 15. Pour produire de bons fruits, pour gagner en maturité, pour gagner en substance, pour gagner en profondeur, il nous faut parfois, si même, à chaque fois, passer par un temps de pression, de pression. Et l'objectif de Dieu lorsqu'il initie la pression, lorsqu'il permet la pression dans ta vie, c'est de te rendre un peu plus encore semblable à son Fils Jésus-Christ. Et face à la pression, nous ne réagissons pas tous de la même manière. Elle peut influencer en bien ou en mal. Vous pensiez peut-être connaître une personne, vous la mettez derrière un volant, hein, avec l'atmosphère oppressante de la route, et là vous dites, eh ben tiens, j'apprends à te connaître, waouh! Et là les hommes disent, amen. Mais la pression, pour certains elle sera comme une force qui va les propulser vers l'avant, à se surpasser, elle va révéler des capacités insoupçonnées. Et pour d'autres, elle va révéler par contre des failles, un manque de compréhension, un manque d'assurance, de confiance, de stabilité dont la source peut être parfois très profonde. Et alors là, la pression, elle est perçue comme un mur infranchissable qui paralyse. Et la seule issue, c'est de fuir. Mais fuir la pression, c'est juste la repousser à un autre moment. Mais nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous ne sommes pas appelés à fuir la pression, ni à subir la pression, mais à y faire face et la traverser avec le Seigneur Jésus. Et ce soir, à travers un moment bien précis du règne du roi Saül, nous allons voir comment faire face à trois types de pression en particulier, mais les clés que nous allons voir sont valables pour tout type de pression. Et j'aimerais rappeler le contexte avant de lire le texte. Saül vient d'être oint roi, et avant de le quitter, le prophète Samuel va lui faire quelques recommandations et lui dire ceci. « Tu me précéderas à Gilgal, où je te rejoindrai pour offrir des holocaustes et des sacrifices de communion. Tu m'attendras 7 jours jusqu'à ce que je vienne te retrouver. Alors, je te ferai savoir ce que tu dois faire. » Et notre lecture se trouve dans 1 Samuel, chapitre 13, au verset 4. Permettez-moi de lire rapidement. « Tout Israël apprit que Saül avait abattu la stèle des Philistins et qu'Israël s'était ainsi rendu odieux aux Philistins. Tout le peuple se rassembla donc à Gilgal pour aller combattre avec Saül. Les Philistins se mobilisèrent avec toutes leurs troupes pour combattre Israël. Ils avaient 3000 chars de guerre et 6000 soldats sur chars, ainsi qu'une multitude de fantassins, nombreux comme les grains de sable des mers. Ils allèrent prendre position à Michmash, à l'est de Beth-Aven. Les hommes d'Israël virent qu'ils étaient dans une situation extrêmement critique, car ils étaient serrés de près par l'ennemi. Ils se cachèrent dans les grottes, dans les buissons, dans les cavernes, les souterrains et les citernes. Certains Hébreux franchirent le Jourdain et se réfugièrent même dans le territoire de Gad et de Galaad. Pendant ce temps, Saül était toujours à Gilgal, au milieu de son armée qui tremblait d'épouvante. Il attendit 7 jours, le rendez-vous fixé par Samuel. Celui-ci n'arrivant pas, les soldats commencèrent à l'abandonner et à se disperser. Alors Saül dit, « Amenez-moi les bêtes et de l'holocauste et des sacrifices de communion. » Et il offrit lui-même l'holocauste. Et ici s'arrête notre lecture. Lorsque cet événement se produit, cela fait 2 ans que Saül est roi. Et bien sûr, sa renommée s'est agrandie. Mais face à ce puissant et redoutable ennemi qu'est les Philistins, Saül va perdre pied et désobéir à la volonté de Dieu. Et cet événement va être le commencement de sa déchéance. Pour identifier les 3 sources de pression qu'il a subies, j'aimerais qu'on regarde à la réponse qu'il a donnée au prophète Samuel juste après avoir offert l'holocauste. Il est dit, au moment où il achevait de l'offrir, Samuel arriva. Saül alors alla à sa rencontre pour le saluer. Samuel lui demanda, « Qu'as-tu fait ?» Saül répondit, « Quand j'ai vu que mes soldats se dispersaient loin de moi, que tu n'arrivais pas au rendez-vous fixé et que les Philistins étaient concentrés à Michmash, je me suis dit, les Philistins vont tomber sur moi à Gilgal avant que j'aie pu implorer l'Éternel. Alors je me suis fait violence et j'ai offert l'holocauste. Samuel dit à Saül, « Tu as agi comme un insensé. Tu n'as pas obéi au commandement que l'Éternel, ton Dieu, t'avait donné. Si tu l'avais fait, l'Éternel aurait affermi ton autorité royale sur Israël et il aurait fait en sorte que tes descendants y gardent pour toujours la royauté. Mais puisque tu as désobéi aux ordres de l'Éternel, ta royauté ne subsistera pas. L'Éternel a décidé de se chercher un homme qui corresponde à ses désirs et à l'établir chef de son peuple. » Première source de pression, l'abandon. Samuel demanda, qu'as-tu fait? Saül va répondre, quand j'ai vu que mes soldats se dispersaient loin de moi. Vous serez d'accord avec moi pour dire que face à la pression, nos réactions sont liées à nos sens, à ce que nous voyons, à ce que nous entendons, à ce que nous touchons, à ce que nous ressentons. Et les yeux de Saül étaient fixés sur le comportement de ses soldats devant l'ennemi. Et cela a impacté son jugement. Je vous pose cette question. Quand tu es sous pression, dans quelle direction regardes-tu? Sur quoi fixes-tu tes regards? Sur tes amis? Sur tes pasteurs? Sur ce que tu ressens? Sur ce que l'ennemi veut te faire croire, veut te faire voir, veut te faire entendre sur tes propres intérêts? L'homme qui voit le mieux, nous a dit pasteur Joël, c'est celui qui est aveugle naturellement. Lorsque nos regards sont focalisés sur autre chose que sur le Seigneur, nous ne sommes plus aptes à entendre et à obéir à sa voix. Et c'est exactement ce que Ève a fait. Genèse 3:6, la femme vit que l'arbre était porteur de bons fruits à manger, agréable à quoi regarder et précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit du fruit et en mangea. Dès lors où les yeux d'Ève se sont détournés de la prescription du Seigneur et se sont focalisés sur le fruit, l'ennemi est entré et elle a fini par pécher. Résultat, Ève et Adam ont perdu le privilège d'être dans l'environnement, dans la présence continuelle de Dieu. Un autre exemple, David, il arriva au temps du soir que David se leva de dessus son lit de repos et se promena sur le toit de la maison du roi et du toit. Il vit une femme qui se lavait et la femme était très belle à quoi? À voir. Tout comme Ève, sous la pression de la convoitise de la chair, David détourne ses regards de la loi de l'Éternel pour les focaliser sur la femme du riz. Et c'est alors qu'il va pécher. Et la réponse de Dieu est intéressante. À travers la bouche du prophète Nathan, il va dire ceci. « Pourquoi donc as-tu méprisé la parole de l'Éternel en faisant ce qui est mal à mes yeux ?» Si donc désobéir à Dieu revient à mépriser sa parole en regardant et en pratiquant ce qui lui déplaît, obéir, c'est honorer sa parole en fixant et en pratiquant ce qui plaît aux yeux de Dieu. Je regarde et je pratique la parole de Dieu. Et pour ce faire, attention, il nous faut bien choisir le canal avec lequel nous voulons voir. Quel canal utilises-tu ? Soit avec les yeux de la chair, qui à tous les coups vont nous conduire à pécher parce que la chair est faible et l'affection de la chair est inimitée contre Dieu. Et de l'autre côté, nous avons les yeux de l'esprit qui nous garderont dans la foi, dans la confiance et dans l'obéissance. Mais quelquefois, tout se joue à une fraction de seconde. Tout se joue à une fraction de seconde. Je ne compte plus le nombre de fois où, excédé par le comportement de mes enfants que j'aime beaucoup, je crie au Saint-Esprit au secours. Au secours, si tu n'interviens pas maintenant, là, Saint-Esprit, là, ça va chauffer. Bonne nouvelle, le Saint-Esprit agit toujours. Parfois, je dois persévérer, mais il agit toujours, heureusement pour les enfants. Le Saint-Esprit est là pour nous aider, pour nous fortifier, à condition de faire appel à lui. Lorsque tu fais face à la pression d'une mauvaise nouvelle ou les paroles d'amis très chers, lorsque tu fais face à une injustice et que ça vient oppresser ton cœur, là encore, tu as le choix. Soit tu réagis par la chair, soit tu agis par l'esprit. Est-ce que cela va me coûter? Bien sûr que oui, la chair va souffrir. Mais je préfère diminuer qu'il croisse. Je préfère souffrir que déplaire au Saint-Esprit. Revenons donc un petit peu à notre texte. Qu'est-ce que Saül voit? Il voit que ses soldats l'abandonnent et que si ça continue, il se retrouvera seul alors que l'armée ennemie, elle, continue d'avancer en sa direction. La pression de l'abandon. Voir ses soldats se disperser loin de lui a créé du stress dans son cœur. L'idée de se retrouver seul a suscité la crainte pour finalement désobéir à Dieu. Combien de fois, ah Seigneur, avons-nous dilué la parole de Dieu? Avons-nous mis de côté la parole de Dieu par peur d'être rejeté? Tu t'es accroché à des gens, à des situations que tu savais bien parfaitement toxique pour toi, contraire à la volonté de Dieu. Mais parce que tu avais peur d'être abandonné, d'être rejeté, tu t'es accroché jusqu'à désobéir à Dieu. Et si aujourd'hui, tu fais face à cette tentation, je prie que le Saint-Esprit vienne t'aider, que la peur de l'abandon, la peur du rejet tombe dans ta vie. Parce que le Seigneur nous a dit ceci, et ce qui est vrai, Emmanuel est avec vous tous les jours de notre vie. Saül avait oublié quelque chose d'important. Celui qui vit en nous est plus fort que celui qui est dans le monde. Il avait oublié qui était à ses côtés, que la victoire n'était pas dans les mains de ses soldats, mais que la victoire était dans le nom de l'Éternel et que l'Éternel était capable, avec ou sans soldats, avec des armes ou sans armes, lui donner la victoire parce que notre Dieu est le Dieu de victoire. Dieu avait un projet, la victoire d'Israël. Les soldats ne sont pas partis tout de suite. Quand bien même ils avaient peur, la situation était effrayante. Mais c'est voyant que la promesse tardait, voyant que le septième jour était arrivé et que Samuel n'était toujours pas là, c'est là qu'ils ont commencé à se disperser et à abandonner Saül. Ton obéissance fera le tri dans tes relations. Ton obéissance fera le tri autour de toi. Lorsque tu choisis d'obéir fidèlement à la voix de Dieu, cela va provoquer du nettoyage dans tes relations. Ceux qui resteront avec toi, c'est ceux qui auront fait le choix de t'accompagner, de te soutenir sur le chemin de ton obéissance. Et j'espère que nous sommes de ceux-là qui soutiennent, qui accompagnent, qui prient, qui intercèdent. En tout cas, c'est ma prière et je bénis Dieu pour toutes les personnes qu'il a mis à mes côtés et qui m'accompagnent dans le chemin de mon obéissance. Je prie que face à la pression de l'abandon, que comme Job, qui a fait face à l'abandon de sa femme, qui lui a dit « Oh, pff, maudit Dieu, et meurt », face à ses amis, il a dit « Je n'ai pas refusé d'obéir à ses ordres. J'ai fait plier ma volonté pour obéir à ses paroles. » Ah, est-ce qu'on peut acclamer la parole de Dieu? J'ai fait plier ma volonté. Deuxième source de pression, le temps qui passe. Qui ne fait pas face au temps qui passe? Célibataire, couple, jeunes et vieux, tout a un délai. Même la nourriture a une date de péremption. Chaque journée est une course contre la montre, la société, la technologie. La vie fait que, en fait, on devient impatient. Mais même à l'église. Même à l'église, on peut ressentir la pression du temps. Tu peux apporter un sujet et on va prier pour les plus fidèles des semaines, des mois, des années. Et on est là, mais au bout d'un moment, ok, on commence à se poser des questions. Tu entends des murmures, mais ça fait quand même 2 ans, 3 ans qu'on prie, 10 ans qu'on prie, rien ne se passe. Qu'est-ce qui ne va pas dans sa vie? Est-ce qu'il y a un mur qui est là? Un péché qui empêche Dieu d'agir? Au début, tu résistes. Au début, tu déclares la parole de Dieu. Tu es forte. Mais au fur et à mesure du temps qui passe, ta foi s'affaiblit. Ton courage diminue pour finir par abandonner. La pression du temps qui passe. Et cette pression, le roi Saül l'a expérimentée. Au début, il est dit que l'armée face à l'ennemi tremblait d'épouvante, mais elle était encore là près du roi. Le premier jour, le deuxième jour, le troisième, le quatrième, le cinquième, le sixième et vint le septième jour. Le jour de la promesse. Et là, j'imagine le roi Saül, ah là 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 là, se dire, allez, c'est bon. La victoire est assurée, le prophète arrive, la victoire est assurée, réveillez-vous les soldats, allez, on y va, ça va aller. 6h, midi, puis 15h, toujours personne. Le prophète n'est toujours pas là. Tandis que l'ennemi, lui, continue sûrement d'avancer et de gagner du terrain. Et sûrement que le roi Saül entend les murmures de ses soldats qui commencent à dire « Mais attends, qu'est-ce qu'il fait ? L'ennemi est là, il est là à nos portes. » Il n'est pas précisé à quel moment de la journée le roi Saül fit le sacrifice. Mais à un moment donné, sous la pression de ces soldats qui commencent à partir les uns après les autres, il va dire « C'est bon, je prends les choses en main et je fais l'holocauste, le sacrifice de communion. » Ce moment-là, je suis sûre qu'il y avait du temps encore. Il y avait du temps encore. Le soleil n'était pas encore couché. Mais la pression était telle que Saül a craqué. Dans de telles situations, je ne sais pas vous, mais parfois, je vais agir dans la précipitation, dans l'agitation. Ou alors, pour ceux qui sont plus réfléchis, on va sortir la carte du plan B qu'on avait sous le coude au cas où Dieu... Bon, bref, on n'avait pas compris. on prend les choses en main. Parce qu'après tout, il faut bien faire quelque chose. La situation est là devant tes yeux. Le temps, lui, n'attend pas. Mais toute décision ou action faite dans la précipitation révèle un manque de sagesse. Combien de fois je me suis montrée pas sage. Saül s'est improvisé sacrificateur. Pour se libérer de cette pression qu'il avait sur ses épaules, il était roi après tout, fallait qu'il fasse quelque chose, il avait une responsabilité lourde sur lui. Combien de fois nous aussi avons-nous agi de la sorte pour nous sortir de situations oppressantes? Mais l'improvisation n'est pas synonyme d'inspiration. C'est deux choses différentes. Les fruits de l'improvisation et les fruits de l'inspiration ne sont pas les mêmes. L'improvisation ne garantit pas l'approbation de Dieu. Mais parfois, on tombe dans le piège de croire que parce que ce que je fais est, ou dis est spirituel et, bien sûr, approuvé des autres, cela l'est automatiquement de Dieu. Non, non, non. Et malheureusement, Saül a pris cette décision d'offrir l'Holocauste par la chair et non par l'esprit. Toutes les fois où j'agis dans la précipitation ou sous le coup de l'émotion, j'empêche le Saint-Esprit de me prévenir d'éventuels dangers qui me guettent. Je devance le Saint-Esprit. Or, nous sommes appelés à le suivre. Proverbe 19:2 nous dit « Dans un désir irréfléchi, il n'y a rien de bon et précipité, les pas fait commettre des fautes. » Nous l'avons tous expérimenté. On a l'exemple d'Esaü qui va vendre même son droit d'aînesse, pressé par la faim. Ou Sarah qui va juger bon d'accélérer le temps de l'accomplissement en donnant Agar à son époux. Mais rappelons-nous ceci. C'est une promesse dont le temps est déjà fixé. Elle marche vers son thème, elle ne mentira pas. Si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira certainement. La prophétie, c'est quoi? C'est Dieu lui-même. Dieu ne ment pas, Dieu n'est jamais en retard, il n'est jamais en avance. Il est fidèle à son temps. Et c'est ce qui s'est passé pour Saül. Samuel, qui représentait Dieu, qui représentait la parole de Dieu, marchait littéralement vers le roi. La promesse était sur le point de s'accomplir, mais la désobéissance du roi a fermé la porte à l'accomplissement. Sous la pression, ne te fie pas à ce que tu vois, mais accroche-toi à ce que tu crois. Accroche-toi à ce que tu crois. Car toutes les fois où tu as devancé Dieu, tu as empêché la promesse d'arriver jusqu'à toi. Le chronos vient comme concurrencer le kairos de Dieu dans nos vies. Or, nous sommes appelés à nous soumettre, à nous aligner au temps parfait de Dieu pour nos vies. Notre impatience révèle notre manque de confiance, parce que si réellement nous croyons Dieu, je persévérerai jusqu'à ce que je voie l'accomplissement, que je vive la promesse. Et permettez-moi de reprendre quelques citations de Pasteur Omaric dans son canal. Ils vont pas s'afficher, comme ça vous irez les rechercher. Celui qui se relâche lâche sa percée. Il n'y a pas de percée sans persévérance. La finalité du manque de persévérance, c'est l'abandon. Celui qui arrête de persévérer annonce son abandon. Et abandonner, c'est abandonner le plan de Dieu. Mais je prie que nous soyons pas de ceux qui, sous la pression du temps, abandonnent le plan de Dieu. Et que nous puissions déclarer comme David, j'espère en l'Éternel, mon âme espère en l'Éternel, j'attends sa promesse, car il est bon d'attendre en silence le secours de l'Éternel, car Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni un humain pour se repentir. A-t-il jamais parlé sans qu'il tienne parole et n'a-t-il pas accompli tout ce qu'il a déclaré? Ainsi, toutes les promesses de bienfaits que l'Éternel avait données au peuple d'Israël s'accomplirent. Aucune d'elles resta sans effet. Dis à la personne qui est à côté de toi, aucune d'elles resta sans effet. Merci. Troisième source de pression, la pression de l'ennemi. Face à la révolte d'Israël, initiée par Jonathan en abattant un monument érigé à la gloire des Philistins, ces derniers vont se révolter et les Philistins ne vont pas y aller de main morte. Et devant la domination numérique des Philistins, la puissance de leurs armes, il est dit que les hommes d'Israël virent qu'ils étaient dans une situation extrêmement critique, car ils étaient serrés de près par l'ennemi. Pendant ce temps, Saül, lui, était toujours à Gilgal, au milieu de son armée qui tremblait d'épouvante. Il faut savoir qu'à cette époque, il n'y avait plus de forgerons dans tout Israël, car les Philistins avaient voulu empêcher que les Hébreux fabriquent des épées et des lances. C'est pourquoi le jour de la bataille, imaginez-vous bien, les hommes qui étaient avec Saül et Jonathan n'étaient pas armés. Seul Saül et son fils avaient des armes. Réalisons vraiment. Face à l'ennemi, Israël n'avait aucun moyen de se défendre ni d'attaquer. Pourquoi? Parce que l'ennemi s'était arrangé au préalable pour les désarmer. N'est-ce pas la stratégie du diable aussi dans nos vies? L'épée qui représente la parole de Dieu est indispensable à l'armure du soldat. Un soldat sans épée, c'est un soldat vulnérable. Et c'est ce que le diable veut, que tu sois vulnérable. Et il fait tout pour t'empêcher, nous empêcher de nous enraciner dans la parole de Dieu. Car il sait qu'un chrétien qui pratique la parole, c'est un chrétien qui est dangereux. La situation était extrêmement critique. Et Saül va dire à Samuel, « Je me suis dit que les Philistins vont tomber sur moi à Gilgal avant que je n'aie pu implorer l'Éternel. Alors je me suis fait violence. » Combien de fois, sans le dire, sans le verbaliser, on a dit ça aussi à Dieu, « Je me suis fait violence. Je savais que c'était mal, mais oh, j'ai pas pu faire autrement. » Sa réponse montre qu'il savait très bien que son acte était contraire à la volonté de Dieu. Il n'était sans savoir que seuls les prophètes, les lévites, pouvaient offrir des sacrifices. Il s'est retenu au départ, mais ensuite a succombé face à la pression de l'ennemi. Il a fait le choix de tenir ferme au début avec la parole du prophète, quoi qu'il en coûte. Il avait ce choix-là, ou de sauver sa vie. Et il a sauvé sa vie. Il a choisi sa vie. Combien de fois avons-nous aussi fait le même choix, sauver notre vie? Tu sais très bien que tout ce qui se passe autour de toi n'est pas à la gloire de Dieu, mais tu choisis de te taire parce que tu veux sauver ta vie. Parce que tu veux sauver ta vie. À chaque fois que je choisis de sauver ma vie, que je choisis mes intérêts, c'est parce que mes yeux sont focalisés sur moi et non sur Dieu. Et Saül agit comme ceux qui, dans la parabole du semeur, j'aime trop ce passage, reçoivent la semence sur le sol rocailleux. Quand ils entendent la parole, ils l'acceptent aussitôt avec joie, mais ils ne la laissent pas prendre racine en eux car ils sont inconstants, nous dit la parole de Dieu. Et dès que survient des difficultés ou la persécution à cause de la parole, les voilà qui abandonnent tout. C'est fort. Les voilà qui abandonnent tout. La désobéissance montre ainsi le manque de profondeur qu'a la parole dans nos cœurs. Or, la parole de Dieu est indispensable à notre armure. Soumettez-vous à Dieu et résistez au diable et il fera loin de vous, nous dit Jacques. C'est par notre soumission, notre obéissance à la parole de Dieu que nous pourrons résister et que le diable fuira. Je prie au nom de Jésus que tu ne te laisses pas désarmer par le diable et que tu prennes soin de ton épée. la parole que Samuel avait donnée à Saül, l'a testée. Dieu avait donné une instruction claire à Saül, qui allait les conduire à la victoire. Mais sous la pression, son jugement s'est obscurci et l'a poussé à désobéir. Et en désobéissant, il prit une place d'autorité qui n'était pas la sienne. Il a élevé sa volonté au-dessus de celle de Dieu. La pression, en fait, a révélé l'impatience et le cœur orgueilleux de Saül. Et par conséquent, Dieu décida que sa royauté ne subsisterait pas. Alors comment ? Et on va conclure comme cela et je vais inviter l'équipe de louange à me rejoindre. Comment réussir là où le roi Saül a échoué ? Comment faire face à la pression sans déshonorer Dieu ? Jésus est notre exemple. Jésus a démontré que cela était possible. Faire face à la pression, faire face à l'ennemi et rester fidèle à Dieu. Jésus, dans son humanité, a été tenté comme vous et moi. Satan a utilisé les mêmes armes pour le tenter qu'il utilise avec nous. Il a fait face à l'abandon, le rejet, l'injustice, la méchanceté, la pression de sa mère, de ses frères. Jésus aurait pu même, à plusieurs reprises, précipiter les choses, accélérer le cours des circonstances. Mais face à la pression du temps, il a décidé de rester fidèle à son Père et déclarer « Mon heure n'est pas encore venue. » Mon heure n'est pas encore venue. Lorsque Pierre réagit à l'annonce de sa mort, Jésus résiste à la tentation en lui répondant « Arrière de moi, Satan ! Tu mets en scandale car tes pensées ne sont pas celles de Dieu, mais celles des hommes. » Jésus, à aucun moment, ne réagit face à la pression. Il garde toujours le contrôle de ses pensées, de ses actes, de ses émotions, de ce qu'il déclare. Quand on le frappe et on lui crache dessus, il ne répond pas par la colère, par la menace, par la méchanceté, mais par le silence. On l'a frappé et il s'est humilié. Il n'a pas dit un mot. Semblable à un agneau mené à l'abattoir, tout comme la brebis muette devant ceux qui l'attendent, il n'a pas dit un mot. C'est pourquoi il est dit de lui dans Hébreux 4:15. En effet, nous avons un grand prêtre qui serait incapable, dis à la personne à côté de toi, incapable de se sentir touché par nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté en tout point comme nous le sommes, mais sans commettre de péché. Et le même esprit qui est en Jésus, c'est le même esprit qui est en nous. Tu as aussi la possibilité, si tu fais appel au Saint-Esprit, de résister face à la pression et d'honorer le roi des rois. Lorsque l'heure fut arrivée, l'heure d'être livré et d'aller à la croix, il est dit de Jésus qu'il prit avec lui Pierre et les fils de Zébédée, et il commença à éprouver de la tristesse et de l'angoisse. Alors il leur dit, je suis accablé de tristesse à en mourir. Et à Gethsémané, qui signifie pressoir à huile, Jésus va vivre un moment de pression que vous et moi n'aimerais pas vivre. À tel point que sa sueur devint comme des grumeaux de sang qui tombaient sur le sol. Mais Jésus ne s'est pas enfui, Jésus a fait face à la pression. Il a fait face à la pression pour que vous et moi nous puissions aussi faire face à la pression. Et dans ce combat spirituel, Jésus n'a pas pris, oui, la fuite. Il n'a pas pris de décision hâtive pour se libérer de la pression, mais il est allé dans la présence de son Père. Il a déversé son cœur et il est dit qu'un ange est venu le fortifier. Il a persévéré jusqu'à ce que sa volonté se plie à celle du Père. Alors la première clé que j'aimerais nous donner face à la pression, c'est ton lieu secret. J'aime dire que tout commence dans le lieu secret. Lorsque tu vis une situation oppressante, une épreuve, va dans le lieu secret, va déverser ton cœur devant ton Père et attends, attends son secours. La deuxième clé, utilise ton épée. Jésus, dans le désert, a utilisé la parole de Dieu pour résister à Satan. Confesse, pratique la parole de Dieu. Troisième clé, les relations. Ah, Seigneur! Jésus a demandé à Pierre, Jacques et Jean de veiller et prier avec lui. Choisir des personnes de confiance pour prier pour et avec toi. Et tu verras comme c'est plus facile, comme c'est de, ça devient plus facile d'obéir à Dieu. Alors ce que je suis, pardon, à la fin de mon message, j'aimerais demander à chaque leader d'église en maison qu'après, à l'issue de la célébration, vous preniez le temps de mettre en pratique la parole, de pratiquer ces clés que je vous ai données. Prenez le temps de vous encourager, de vous écouter et qu'ensemble, vous puissiez prier, vous fortifier dans la prière. Mais pour maintenant, alors que l'équipe de louange va entamer ce chant, j'aimerais qu'on se positionne à la croix. Saül, après avoir désobéi, n'est pas parti dans la présence de Dieu pour demander pardon. Non, il a justifié son péché. Ne commettons pas la même erreur. Ne cherchons pas à discuter avec le Saint-Esprit. Mais soumets-toi au Saint-Esprit. Dis-lui, je viens dans ta présence, Saint-Esprit. Je m'humilie devant toi, Seigneur, parce que je ne veux pas justifier mes erreurs. Non, je veux chercher à plaire ton cœur.